Donc voilà, le père Florian Racine est ici. Donc il y a exactement 5 ans, à quelques semaines près, le même père Florian Racine venait sur la paroisse pour nous parler de l'adoration, avec ce désir que nous avions de vivre l'adoration eucharistique de façon prolongée. Et nous avons été comblés au-delà de notre attente, puisque quand on a dépouillé les inscriptions à la suite d'une rencontre comme celle-ci un soir et ensuite des différentes messes du week-end, eh bien on a eu suffisamment d'inscriptions pour organiser une adoration donc perpétuelle, jour et nuit, 7 jours sur 7. Il y a juste le dimanche matin où on ne fait pas l'adoration, puisqu'on considère que la messe est l'acte d'adoration par excellence, le premier acte, donc voilà, tout le monde va à la messe. Même s'il arrive que régulièrement, il y a des personnes, des paroissiens ou des personnes qui viennent à l'oratoire en disant « Ah, je voulais y aller avant d'aller à la messe, malheureusement le Saint-Sacrement n'était plus exposé. » Donc voilà. Toujours est-il que si je reprends depuis le début, le 8 décembre 2012, la paroisse a été consacrée à la Vierge Marie en lui demandant vraiment à Marie de nous aider à voir ce qui était le plus utile pour le bien de chacun, pour la paroisse, pour son rayonnement, pour le bien de l'Évangile. Et j'avais déjà à l'époque l'idée qu'on pourrait lancer l'adoration du Saint-Sacrement, mais je me disais qu'il faudra au moins 3 ans, parce qu'en Vendée, il y avait peu de lieux d'adoration. C'était des temps très courts, pas toujours soutenus par les prêtres, et donc il me semblait qu'il fallait préparer un peu les mentalités, les cœurs, à cette possibilité de vivre l'adoration de façon assez prolongée. Mais, donc, à la suite de cette consécration, il y a eu un certain nombre de petits clins d'œil du Seigneur, du ciel. À titre d'exemple, il y a eu, par exemple, cette chapelle. Les vitraux qui étaient ici étaient démontés depuis une trentaine d'années. On ne savait même pas où ils étaient, et aucun paroissien, des vieux paroissiens, savait vraiment comment ils étaient, depuis quand ils étaient enlevés. Bon. Et dans la semaine qui a suivi la consécration à Marie, eh bien, la mairie a débarqué en disant « on remet les vitraux ». C'était des vitraux. Voilà, c'est des petits clins d'œil. Et aussi, dans la même semaine, on a eu aussi la relique, c'était pas prévu non plus, les reliques à l'époque pas encore saint, mais du pape Jean-Paul II, qui sont venues par un concours de circonstances, et les gens ont pu venir prier auprès de Jean-Paul II. Voilà. Ah oui, et puis je vous pourrais multiplier les exemples, mais surtout le signe que cette mise en prière, cette confiance en Marie, en l'intercession de Marie, était puissante et efficace, c'est que l'été qui a suivi, il m'a semblé qu'il ne fallait pas que j'attende pour lancer l'adoration. Alors ça, c'est déjà le premier miracle, parce qu'il fallait que je dépasse mes peurs. Et puis ensuite, j'ai contacté donc le père Florian Racine, je ne connaissais pas particulièrement, pour voir s'il était possible de venir prêcher un week-end. Et le week-end qu'il m'a proposé pour venir prêcher sur la paroisse, c'était donc le 8 décembre, donc exactement un an après la consécration de la paroisse à la Vierge Marie. Donc j'y ai vu vraiment un signe que c'est la Vierge Marie qui voulait que l'on vive cette démarche. Et donc il est venu, et puis voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi les inscriptions ont été importantes. On a pu lancer vraiment ce temps, cette prière de l'adoration. Aussi providentiellement, il y a énormément de choses qui se sont mises en place aussi, puisque il fallait trouver un lieu chauffé, tout ça, un lieu agréable. Bon, ce n'était pas évident d'emblée, il n'y avait pas de lieu. Et en fait, là où est l'adoration actuellement, il y avait une salle du presbytère qui servait à des petites réunions. Et en fait, nous est venue l'idée finalement de le faire ici. Des hommes ont bien voulu remettre tout en état la pièce. Ensuite, le prêtre artiste de la paroisse, le père Jean-Marie Parra, a fait la fresque, aidé de quelques paroissiens, etc. Bon, tout s'est mis en place, mais de façon assez providentielle. L'hôtel nous a été offert, etc. Le tabernacle aussi. Bon, toujours est-il que tout s'est bien mis en place, très vite, très bien. Et l'adoration a donc été lancée, il me semble, le 16 janvier C'est ça ? 19, voilà. Mais moi, je suis né dans les chiffres, donc le 19 janvier 2014. Voilà. Et donc, nous fêtons maintenant les 5 ans. Et je remercie le Père Florian donc, d'être venu de nouveau nous encourager dans cette vie de prière. Voilà. Devant le Saint-Sacrement. Je laisse la parole.
Voilà, merci Père Dominique pour cette nouvelle invitation. Très heureux de venir dans ce coin de France que je connais très peu, moi qui viens plutôt de l'autre extrémité, sud-est. Et je suis actuellement curé d'une basilique Sainte-Marie-Madeleine. Je voyais que vous aviez la peinture, une des représentations bien connues de Sainte-Marie-Madeleine. Et je vais peut-être commencer par elle, justement pour introduire petite exhortation, voilà, petit enseignement pour essayer de mieux comprendre voilà, qu'est-ce qu'adorer, pourquoi adorer et un peu comment adorer. Voilà, ça, il y aurait de quoi prendre plus de temps que la petite heure que l'on a maintenant, hein, sachant qu'on terminera par un petit temps de questions-réponses et ensuite je crois qu'il y a un petit boisson chaude qui sera prévue après pour ceux qui le souhaitent. Alors, commençons par ce passage de Sainte Marie-Madeleine au tombeau vide. C'est de l'évangile de Saint Jean. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges, vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi, qu'il a emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. » Et votre Dieu, Marie-Madeleine, s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. On peut faire une analogie avec ce qui se passe à la messe ou ce qui se passe lorsqu'on vient adorer le Saint-Sacrement. Marie-Madeleine pleure parce qu'elle a perdu Jésus. Vous savez qu'on la voit pleurer trois fois dans la Bible, comme une Madeleine. La première fois quand elle s'est perdue elle-même à cause du péché. La deuxième fois lorsqu'elle a perdu son frère, qui est mort. Et la troisième fois lorsqu'elle a perdu Jésus. Peut-être les trois bonnes raisons pour pleurer. Lorsqu'on s'est perdu à cause du péché, lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime, ou lorsqu'on perd Jésus. Et chaque fois, Marie-Madeleine retrouve ce qu'elle a perdu. Alors ici, elle pleure, elle a perdu Jésus. Et au début de chaque messe, on pleure un peu. Intérieurement, peut-être pas les chaudes larmes de Marie-Madeleine, mais quand même, hein, on commence à dire « Seigneur, prends pitié. Au Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. » Liturgie pénitentielle, on pleure parce que par notre péché, on a perdu Jésus. On ne l'a pas reconnu. Et ensuite, Marie-Madeleine va se retourner. Il y a une double conversion, double retournement. Il y a deux verbes d'ailleurs qui sont utilisés. D'abord, c'est un retournement physique. Et en se retournant physiquement, elle va rencontrer Jésus, mais elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Alors nous, c'est vrai que dans notre messe, pour venir à la messe, il faut se retourner physiquement, c'est-à-dire sortir de son lit, sortir de chez soi, venir à l'église. Mais est-ce que ça suffit d'être physiquement à la messe? Non, parce que lorsque le prêtre élève l'hostie, on va dire « c'est du pain ». Comme Marie-Madeleine qui dit « c'est le jardin ». Et alors ensuite, eh bien Jésus va inviter Marie-Madeleine à le reconnaître. Et il va dire « Marie », il l'appelle par son prénom. Et au moment où elle entend Jésus qui dit « Marie », il est dit qu'elle se retourne intérieurement, elle pose l'acte de foi et elle reconnaît Jésus ressuscité malgré les apparences du jardinier. Et nous aussi à la messe, à un moment Jésus nous interpelle personnellement, peut-être pas par notre prénom, on n'entend pas notre prénom, mais il y a une parole du prêtre qui dit « Ceci est mon corps ». Et quand on entend « Ceci est mon corps », à ce moment-là, qui parle? C'est plus le prêtre qui parle, c'est Jésus qui agit dans la personne même du prêtre et qui dit « C'est moi, je suis là, avec mon corps. Mon corps, c'est tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait. » Et au moment où on entend « Ceci est mon corps », eh bien on est invité à poser cet acte de foi et à reconnaître, sous les apparences du pain, Jésus ressuscité. Comme Marie-Madeleine qui reconnaît, hein, malgré les apparences du jardinier, Jésus ressuscité. Et elle se jette aux pieds de Jésus. On dit Marie-Madeleine, c'est la femme qui passe sa vie aux pieds de Jésus. Chaque fois qu'elle est quelque part avec Jésus, elle est aux pieds de Jésus. C'est l'adoratrice par excellence. Et alors elle est là aux pieds de Jésus, comme nous à la consécration, on se prosterne. Si on peut se prosterner physiquement, on le fait. Si on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas physiquement, on le fait intérieurement. Mais voilà, on adore Jésus qui est là. Et ensuite, elle va dire « Rabouni ». C'est la mini catéchèse eucharistique, j'aime bien dire, de Marie-Madeleine. Il y a deux dimensions. Vous savez, il y a Rabbi, le Seigneur, mon Dieu qui est là. Elle reconnaît le Seigneur, le Maître. Donc devant le Maître, que pouvons-nous faire d'autre que de nous mettre à ses pieds? C'est lui, c'est Dieu. Devant Dieu, hein, regardez dans le livre de l'Apocalypse, devant Dieu, il se prosterne humblement, hein, devant le Seigneur. L'adoration, le premier devoir de l'homme vis-à-vis de son Dieu. Mais elle ne dit pas « Rabbi », elle dit « Rabouni ». Elle rajoute une petite note de familiarité. C'est très sympathique. C'est son cœur de femme. « Mon maître à moi, mon Jésus, celui que j'aime, celui qui m'appartient. » Elle avait dû entendre cette parole de Jésus qui disait « Je ne vous appelle plus serviteur ou esclave, mais je vous appelle mes amis. » L'amitié avec Jésus. On peut être ami de Dieu parce qu'il s'est incarné. On peut encore être ami de Dieu parce qu'il prolonge cette incarnation sous les apparences du pain. Donc vous voyez à la fois la transcendance devant Dieu, elle se prosterne humblement devant Dieu, mais en même temps elle sait qu'il y a qui s'est abaissé jusqu'à elle, qu'elle peut dire « Mon Seigneur, mon Jésus, celui que j'aime parce que je sais qu'il m'aime. Je fais l'expérience de son amour. » Et elle sait combien Jésus l'a aimée, hein, parce qu'elle était touchée par la miséricorde. Et donc c'est Marie-Madeleine qui reconnaît Jésus ressuscité avec ce rabouni. Hein. Chacun peut exprimer son rabouni à sa manière dans cette adoration. Alors à la messe d'abord, à l'adoration qui prolonge. Et ensuite, eh bien Jésus qui dit, voilà, maintenant va annoncer. Et elle est la première qui annonce Jésus ressuscité. La première qui annonce Jésus ressuscité. Et donc nous aussi, le fruit naturel de la messe, de l'adoration, c'est d'aller annoncer Jésus ressuscité. Pour continuer cette grande chaîne de transmission qui a commencé par Marie-Madeleine, la première de première, c'est Marie-Madeleine qui a reconnu Jésus ressuscité. Donc vous voyez, dans la messe, nous avons vraiment, hein, ce passage qui s'actualise pour nous. Alors demandons à Marie-Madeleine de nous aider à entrer, hein, dans cette foi, ce double retournement, vous voyez, que l'on vit à chaque messe, que l'on vit à chaque adoration. Vivons ce rabouni au pied du Seigneur, en aimant le Seigneur, en l'adorant, lui qui est Dieu, hein, trois fois saint, qui vient jusqu'à moi, qui s'abaisse jusqu'à moi, et qui me dit ensuite, évidemment, va annoncer, hein, j'ai vu le Seigneur, voilà, j'ai vu le Seigneur. Alors, je suis toujours dans l'introduction, J'aime bien, je suis tombé dessus il n'y a pas très longtemps, un conteur-narrateur du XVIIIe siècle. Il raconte un conte en deux phrases. C'est très court, mais je trouve que c'est très beau pour nous aider à rentrer dans cette réalité de l'Eucharistie. Il dit ceci, c'est Maguid de Mesrich. Imaginez deux enfants qui jouent à cache-cache, l'un se cache, mais l'autre ne le cherche pas. Dieu se cache et l'homme ne le cherche pas. Imaginez sa peine. Je relis ce petit conte. Imaginez deux enfants qui jouent à cache-cache, l'un se cache, mais l'autre ne le cache pas. Non, mais l'autre ne le cherche pas. Dieu se cache, l'homme ne le cherche pas. Imaginez sa peine. C'est sûr que si on se cache, on risque de ne pas être trouvé. Souvent, lorsqu'on cache quelque chose chez nous, pour pas qu'on nous le vole, ensuite, on ne sait plus où on l'a mis. Impossible de se souvenir où est-ce qu'on a caché cela. Eh bien, Dieu se cache. Grand mystère, quand même. C'est Isaïe déjà. Notre Dieu est un Dieu caché. Paul VI, canonisé récemment, combien de fois il disait « Notre Dieu est caché dans l'Eucharistie ». C'était un terme qu'il utilisait toujours, il est caché dans l'Eucharistie. Alors nous sommes appelés à le découvrir, sachant que dans la nature, peut-être les plus grandes merveilles sont cachées. Dieu, il aime. Dieu aime qu'on cherche. Ou on peut dire que lorsqu'on aime, on cherche. C'est une logique de l'amour. Lorsqu'on aime quelqu'un, on va chercher cette personne, à nous de chercher le Christ, qui volontairement, se chercher, correspond à l'acte de foi. Et saint Paul qui dit, nous marchons dans la foi et non dans la vision claire. Voilà. C'est-à-dire qu'au ciel, on sera dans la vision claire, sur terre, nous sommes dans la foi. Et ce Christ, on verra un peu après avec Mère Teresa, il est caché là, dans l'Eucharistie, et bien sûr, il est caché dans notre prochain. Alors, d'abord, voilà, avant de reprendre l'acte d'adorer, j'aime bien rappeler un enseignement ou un petit passage d'un enseignement du pape Benoît XVI aux Journées mondiales de la jeunesse à Cologne. Il y avait 1,5 million de jeunes, voire 2 millions. Il a fait un très bel enseignement. Le thème, c'était l'adoration eucharistique. Bon, après, quand on dit que l'Église ne soutient pas l'adoration eucharistique, c'était quand même le thème des JMJ. Et il disait que il nous invitait, pour comprendre la messe, il invitait les jeunes, l'Église, on va dire, à regarder un crucifix pour comprendre ce qui se passe à la messe. On a un crucifix ici, il y a peut-être d'autres. Bon, il y en a un qui est là, ici, au-dessus du tabernacle. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Jésus va être vainqueur là où l'homme est vaincu. Et là où l'homme est toujours vaincu, où le Christ est vraiment vainqueur, c'est par rapport au mal. Le Christ sur la croix va vaincre le mal, il va vaincre le péché, il va vaincre la haine, il va tuer la haine. Il va tuer la haine par son amour. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un amour qui jaillit de la croix, un amour vainqueur sur la haine, sur toutes les haines. Et ensuite, deuxième grande victoire du Christ, il va vaincre la mort. Il descend dans la mort et il va ressusciter. Et c'est une fois de plus Marie-Madeleine, la première qui va le voir. Le pape Benoît XVI disait que ces deux victoires sur la haine et sur la mort, le Christ veut les rendre présentes dans mon cœur. Et je pense que si je vais à la messe le dimanche, c'est pour avoir ces victoires-là dans mon cœur, dans ma vie. Et donc Jésus va instituer l'Eucharistie, l'invention d'amour, comme on dit souvent, c'est beau, pour que ce qui s'est passé il y a 2000 ans au Golgotha puisse se réaliser, s'accomplir dans mon cœur aujourd'hui. Et donc, juste avant de mourir, prends du pain, ceci est mon corps, livré, offert, sacrifié pour vous, prends du vin. Ceci est la coupe de mon sang versée jusqu'à la dernière goutte pour vous. Jésus va comme insérer dans ce dernier repas cette victoire, une double réalité. Non seulement lui-même, Jésus ressuscité qui est là, ceci est mon corps, mais en même temps tous les fruits de la passion, c'est-à-dire tout ce qu'il a obtenu sur la croix. Cette victoire sur la haine, cette victoire sur la mort, il va comme la déposer à l'intérieur de ce repas. Et ensuite, il dit « Faites cela en mémoire de moi ». Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, ce que Jésus a fait est rendu présent. C'est pour ça que normalement, sur l'autel, on met une croix. Pour rappeler que la messe est d'abord le sacrifice du Christ, qui n'est pas renouvelé dans le sens qu'on refait quelque chose qui n'était pas suffisant, mais qui est rendu présent. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans au Golgotha, ça se passe là, sur l'autel. En d'autres mots, quand je viens à la messe, eh bien, je devrais être comme les personnes qui ont accompagné Jésus sur le Golgotha, la Vierge Marie, Marie-Madeleine. J'ai Jésus qui va donner sa vie par amour pour nous, mais en même temps, Jésus ressuscite avec l'immense joie de la résurrection. Et donc, non seulement, voilà, faites cela en mémoire. Donc à la messe, nous avons le sacrifice du Christ qui est rendu présent avec tout ce qu'il a fait. Et lorsque je pose l'acte de foi, lorsque je regarde Jésus, je reçois déjà cela. Souvent, on pense qu'il faut manger l'hostie. Oui, après, il faut manger l'hostie, parce que Jésus dit qu'il vous devez, si, en mangeant, il y a cette communion de personnes. Mais déjà, n'oublions pas, hein, Jésus dit « Quiconque voit le Fils », on est dans le discours eucharistique, « Quiconque voit avec ce regard contemplatif et croit en moi à la vie éternelle ». On reçoit déjà cette vie éternelle, on reçoit déjà cette victoire, juste par notre participation à la messe. Juste le fait d'être à la messe, c'est comme si on était au pied de la croix. Hein, donc, dans l'Eucharistie, voilà, nous recevons ce qui s'est passé à la croix. La messe, c'est d'abord l'Eucharistie, hein, c'est d'abord le sacrifice du Christ qui est rendu présent. Ensuite, c'est la communion. Jésus qui vient demeurer en moi. Quiconque demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Mais hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis ensuite, Jésus qui demeure parmi nous au Saint-Sacrement. Et donc, c'est vrai qu'au tout début, on conservait la présence réelle pour la donner aux malades. C'est ce qu'on continue de faire. Mais le catéchisme de l'Église catholique, relisez, dit très vite, l'Église a compris le trésor qu'est cette présence de Jésus dans l'Eucharistie qui demeure parmi nous jour et nuit au Saint-Sacrement. Et comme dans l'Eucharistie, voilà, Dieu se donne tout entier, sans limite, c'est l'époux. Eh bien, l'épouse, qui est l'Église, doit répondre à cet amour de Jésus qui est tout entier. Et c'est vrai que l'adoration perpétuelle, jour et nuit, c'est une réponse de l'Église, la communauté paroissiale, qui répond à cet amour du Christ qui est là sans cesse. Voilà. Jésus est là, il reste de parmi nous. Les récits du Christ ressuscité, c'est « il est là ». Ce « il est là », il est très fort. Le ressuscité est là. Il y a une présence permanente ici parmi nous. Et donc, nous sommes appelés eh bien, à répondre à cet amour. Alors, voyez, qu'est-ce que l'adoration ? Nous sommes appelés à cet émerveillement d'abord, hein, juste avant. C'était saint Augustin, j'aime beaucoup cette référence. Il dit « Tout puissant qu'il soit, Dieu, il n'a rien pu faire de plus grand que l'Eucharistie. Hein, » il parlait de l'Eucharistie. « Tout sage qu'il soit, il n'a rien pu trouver de plus admirable. Et tout riche qu'il soit, il n'a plus rien à nous donner. » En d'autres mots, quand Dieu le Père, dans sa toute puissance, sa toute intelligence, sa tout ce que vous voulez, eh bien, nous donne cette petite hostie, Dieu ne sait pas que nous donner davantage. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Dans sa toute puissance, il ne peut pas nous donner plus que cette petite hostie. Si vous trouvez quelque chose de plus grand que l'Eucharistie, dites-le à Dieu le Père. Mais, en réfléchissant bien, il n'y a pas plus grand parce que c'est son Fils. Quand Dieu le Père nous donne son Fils qui nous comble de son Esprit Saint, qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous donne de plus ? Et il nous invite à l'émerveillement. Et c'est vrai que pour nous, les catholiques, le grand drame, c'est la routine de la messe du dimanche. Oh, c'est toujours pareil. Toujours le même prêtre, toujours le même homélie, toujours le même chanteur, toujours la même église, toujours le même truc. Hein ? Et donc, on dit, mais c'est... Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, hein, c'est toujours le même truc, c'est la même liturgie, ça nous fatigue. Et donc devant ce drame de la routine, eh bien, nous avons une école de ferveur qui s'appelle l'adoration eucharistique. Parce que quand je viens devant le Saint-Sacrement, qu'est-ce qui va se passer ? Assez vite, au bout d'une minute, je vais poser une question. Qu'est-ce que je fais là ? Et là, il y a deux possibilités. Soit je dis, je suis vraiment un imbécile, je perds mon temps alors qu'il y a tellement de choses à faire dehors et je repars immédiatement, je fais une minute, hein. Soit je pose l'acte de foi. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu m'attends. Seigneur, tu m'appelles. Seigneur, je suis là. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Et nous, on dit toujours, écoute, Seigneur, ton serviteur parle. Hein, c'est ça. Bon, ça sera la fin. Dans le comment adorer, on verra ça. Hein, voilà. Donc, on est là. Et comme disait Charles de Foucault, qu'est-ce qu'il y a de... Où est-ce qu'on peut être mieux qu'au pied de Jésus ressuscité ? Notre éternité sera d'être avec Dieu. Hein. Une heure d'adoration, c'est déjà une heure du paradis. Alors c'est vrai que le Seigneur ne nous invite pas de rester 24 heures sur 24. L'adoration perpétuelle, il n'y a que la Vierge Marie qui l'a faite 24 sur 24, 7 jours sur 7, quand elle avait Jésus en elle. Bon, c'était facile, il était en elle. Hein. Et ensuite, à Bethléem, certainement que les premières années, elle a dû faire du 24 sur 24, 7 jours sur 7. Mais à part la Vierge Marie, pendant quelques années, nous, on peut pas. Nous, c'est une heure par semaine. C'est déjà bien. Hein. Voilà, on peut faire deux si on aime bien. Hein. Mais après, le Seigneur, voilà, il y a 168 heures, il nous invite ensuite à aller donner et partager tout ce qu'on a reçu en priant au pied du Saint-Sacrement. Alors, qu'est-ce que l'adoration ? Hein, revenons toujours à Moïse. Oula. Moïse, au buisson ardent. Qui es-tu ? Je suis celui qui suis. Je suis l'être. Hein, quel est le nom de Dieu ? Devant ce buisson ardent, il se prosterne. Devant la présence divine, mystérieuse, avec ce nom. Il est l'être grâce à qui tout existe. Et c'est vrai que l'adoration, c'est le premier devoir de l'homme, de la créature, on va dire, vis-à-vis de son créateur. Hein, parce que ce qu'on apprend au buisson ardent, c'est que tout ce qui existe, existe parce que Dieu le maintient en existence. L'être, tout être, ces belles fleurs ici, hein, elles existent parce que Dieu les maintient en existence. Il les porte par son être, il leur permet d'exister. Mais si Dieu les oublie, ou comme moi ici, ou vous, si Dieu nous oublie, supposons qu'il ait une petite absence d'esprit, notre être bascule dans le néant immédiatement. Tant qu'on est là, c'est parce que Dieu nous maintient par son amour, son être aimant, hein, qui nous maintient en existence. C'est pour ça que le premier devoir dans la Bible de l'homme, c'est l'adoration. Premier commandement. D'ailleurs, Jésus le rappelle au démon, qui avait un peu oublié ce premier commandement, hein, qui veut être adoré, bien sûr, à la place de Dieu. Il dit, tu adoreras le Seigneur à lui seul, tu rendras un culte. Premier commandement. Vous voyez, la créature qui adore son créateur. Alors, c'est vrai que nous, si vous écoutez les prières, c'est assez rare qu'on dit « moi qui suis ta créature, toi qui es mon créateur, Seigneur, donne-moi ceci ». C'est pas notre vocabulaire, c'est un autre vocabulaire. C'est pas le registre créature-créateur, c'est plutôt père-fils ou époux-épouse. Bon, c'est plus sympathique quand même, hein. Mais c'est grâce à l'incarnation tout ça. Sinon, on resterait créature-créateur. On peut dire d'un côté, l'islam vit cette adoration du Dieu, hein, en tant que créature, ils adorent leur créateur, à travers une gestuelle qui est très forte, c'est vrai, pour les musulmans. Hein, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi, hein, prendre exemple, peut-être ça, beaucoup d'autres choses pour pas, mais enfin ça, hein, leur manière d'adorer, de sens de l'adoration, hein, qui est fort quand même dans l'islam, c'est vrai, mais qui reste dans ce concept de l'Ancien Testament. Parce que nous, on a l'incarnation, qui est Jésus, qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » On apprend que l'adoration de Dieu, déjà dans Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour adorer Dieu, je passe par le Fils, c'est Jésus qui me conduit au Père, et dans ce mouvement, je reçois l'Esprit-Saint. Hein, c'est par Jésus, à toi Dieu le Père, dans l'unité de l'Esprit. Il y a un mouvement trinitaire dans la Trinité depuis toujours, mais qui, avec l'incarnation, c'est Dieu qui me fait rentrer dans ce mouvement-là. Et donc désormais, pour adorer le Père, si c'est le Père, c'est que je suis fils, donc je ne suis plus créature-créateur, je suis fils-père, mais grâce au Fils lui-même, Jésus, et dans l'unité de l'Esprit-Saint. Et d'ailleurs, après, il y a l'adoration, ça c'est l'adoration chrétienne, hein, en général, voilà, l'adoration de chrétienne, c'est par Jésus j'adore le Père et je reçois l'Esprit Saint. Et l'adoration eucharistique, eh bien, c'est se dire que, ce que l'Église enseigne, hein, je résume, eh bien, c'est que Jésus, là, il est vivant dans le tabernacle. Alors d'abord à la messe, tout ce que je vais dire sur l'adoration ce soir, on le dit d'abord pour la messe et ensuite pour l'adoration comme prolongement, d'accord ? Donc si je dis l'adoration, vous pouvez le comprendre comme la messe ou la messe comme l'adoration, c'est prolongement naturel. Donc Jésus ici, dans le tabernacle, prie son Père. C'est, en fait, Jésus, il y a 2000 ans, a adoré le Père, toute sa prière, tout ce que Jésus faisait, c'était pour la gloire de Dieu, hein, toujours pour la gloire de Dieu, hein, et le salut de l'homme. Et donc Jésus rend présent son adoration du Père, cette adoration qu'il a faite il y a 2000 ans, elle est rendue présente ici au tabernacle pour l'Église, pour que je puisse m'unir à l'adoration de Jésus. Je puisse entrer en fait dans une prière qui est la prière de Jésus, qui me, hop, qui me propulse à Dieu, hein, et qui me permet de recevoir l'Esprit Saint. Et à la messe, le prêtre, après la doxologie, vous savez, il élève l'hostie, le corps et le sang du Christ, il dit, par lui, avec lui, en lui, Jésus qui est là dans l'Eucharistie, à toi Dieu le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. Vous voyez, ce mouvement trinitaire, il est vraiment, on le vit d'une manière toute spéciale dans l'Eucharistie, hein, et donc lorsque je viens adorer Jésus, eh bien, disons-nous qu'il y a tout simplement Jésus qui prie Dieu le Père. Il va prendre mes petites prières qui sont pauvres, qui sont avec les limites de ma prière, de ma foi, la charité, l'espérance. Mais c'est Jésus qui va me prendre tel que je suis, qui me conduit à Dieu, hein, qui présente à Dieu le Père. Il prie pour moi. Voilà. Et je reçois son Esprit Saint. Ou une image plus simple, hein, pour conclure cette petite partie là que j'évoque, c'est l'image du bon pasteur. Qu'est-ce que fait Jésus ? Quand il voit la petite brebis fatiguée, perdue, blessée, hop, il la prend sur ses épaules, ou sur son cœur, si vous voulez, on ne sait pas, prend sur lui, hein. Il l'amène à la bergerie pour être guérie, restaurée, refaite, et pour la renvoyer, hein. Et donc Jésus, nous, quand on vient à la messe, ou devant le Saint-Sacrement, Jésus nous saisit, il nous prend tel que nous sommes, il nous conduit à Dieu, c'est lui qui nous monte à Dieu, hein. C'est lui qui me présente à Dieu, et ensuite Jésus qui me comble de son Esprit Saint. Alors, c'est pour ça que dans l'adoration, la première attitude, j'ai envie de dire, c'est de se laisser faire. On me dit souvent, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'adoration ? Je dis, rien. Ah, c'est le seul endroit où vous avez rien à faire. C'est bien quand même. Pour une fois, vous pouvez rien faire. Et moins vous faites, mieux c'est en plus. C'est ça le truc. Parce que moins vous faites, plus Jésus va faire. Et alors, c'est vrai qu'il faut quand même, c'est pas simplement venir se poser. Il faut toujours poser quand même cet acte de foi. Vous voyez, être dans cette dynamique où je cherche Jésus. Mon cœur est tendu vers lui. Je suis comme l'enfant qui vient à son père. Vous voyez, donc je suis dans cet état de besoin, j'ai besoin de toi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, viens me prendre tel que je suis. Hein, donc, l'adoration, on va dire, cette dimension, dans les fruits, hein, on va voir quelques-uns des fruits de l'adoration. Le premier, c'est se laisser, on peut dire, évangéliser, se laisser regarder, se laisser saisir, pour pouvoir ensuite évangéliser à mon tour. Se laisser regarder, hein, curé d'Ars, qu'est-ce que tu fais, hein, ce brave paysan ? Je le regarde, je l'avise, il m'avise. Je le regarde, il me parle. Voilà, vous voyez, je lui parle, il me parle. Il y a une certaine réciprocité, en fait, sachant que ce qui compte, c'est d'abord ce que Jésus va faire en moi. Hein, il va me regarder. Il va poser son regard sur moi. Et ça, c'est très beau de se laisser regarder. Hein. On dit souvent l'adoration, c'est aimer Dieu de tout son cœur. J'ai envie de dire, non, d'abord, c'est se laisser aimer par Dieu. C'est plus ça, en fait, l'adoration. Je me laisse regarder. Et devant Dieu, il n'y a pas de masque, hein, je veux dire. Je ne peux rien cacher. Nous, on peut cacher nos défauts. Bon, ceux avec qui on vit tout le temps, ils les connaissent, nos défauts. Mais ceux qui connaissent pas trop, qui ne nous connaissent pas trop, on peut cacher, hein, certaines choses. Mais là, devant Dieu, on ne cache rien. On est là pauvre, hein, j'ai envie de dire nu dans tout ce qu'on est de plus intérieur, dans notre personne intérieure. Mais c'est ça que Jésus, il pose son regard sur moi. Et c'est ça la première expérience chrétienne, c'est se laisser regarder, se laisser Jésus poser son regard sur moi, comme Marie-Madeleine, au pied de Jésus, hein, il la regarda. Voilà. Il pose son regard sur elle, et le regard du Christ, eh bien, va tout changer pour Marie-Madeleine. Hein, vous vous souvenez, le pharisien qui dit « mais c'est qu'une pécheresse, le regard qui tue, c'est le regard du pharisien, hein, le regard de Jésus, eh bien, c'est que de la miséricorde qui fait que cette femme se sait aimée. Elle va complètement changer sa vie en faisant l'expérience de se laisser regarder par Jésus. Donc dans l'adoration, il y a vraiment cette dimension où je me laisse regarder. Pas simplement ce que je fais de bien. « Seigneur, voilà, je te donne toutes mes bonnes œuvres. Hein, » ça n'intéresse pas Jésus. Le Seigneur, il veut voir voilà, tout ce qu'on n'a pas encore donné, tout ce qui doit encore sauver dans notre propre personne. Donc c'est se laisser regarder. Et Jésus vient visiter les différentes parties de ma personne. La mémoire. C'est vrai que notre mémoire aujourd'hui, ou notre inconscient, vous savez, il y a beaucoup de choses dans notre imagination, toutes ces parties de nous-mêmes que l'on ne contrôle pas toujours. La mémoire, on a pu être blessé. Les images. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société tellement érotisée, on peut dire qu'il y a toutes ces images de pornographie qui sont partout, qui sont là, qui sont sans cesse en train de bombarder notre mémoire, etc., qui peuvent polluer notre regard, notre manière de concevoir, de penser, de voir l'autre, etc. Donc on peut être blessé comme ça, mais on peut être blessé aussi par la violence qu'on a subie, qu'on a vécue. Et j'ai un témoignage d'une paroissienne qui était à Nice, vous savez, le fameux 14 juillet, là, il y a 2 ou 3 ans, quand le camion s'est jeté sur la foule. Et elle était là, elle a tout vu devant elle, elle était quand même en transi de terreur, d'horreur, elle a vu cette violence-là, devant elle. Mais alors, une violence qui n'a pas de nom, hein, je veux dire. Et elle me disait, voilà, moi, elle ne dort pas, enfin, elle est vraiment perturbée, hein, au niveau psychologique, hein, vraiment, là, c'est au niveau psychologique. Et elle disait, voilà, le seul endroit, hein, où je suis en paix, c'est lorsque je regarde la petite hostie. C'est beau, c'est le seul endroit où cette mémoire, vous voyez, où elle laisse Jésus visiter cette blessure profonde, hein, de cette violence qu'elle a pu voir devant elle, hein, ce fameux 14 juillet. Donc Jésus, vous voyez, il va déjà, voilà, guérir, il dépose cette lumière dans ce qui peut être blessé dans notre mémoire. Alors aussi, ce qui est blessé, il n'y a pas que la mémoire, hein, bien sûr, il y a aussi la volonté. Hein, ma volonté, de temps en temps on perd confiance. Hein, la volonté, vous savez, c'est lié à l'amour. Voilà, si j'ai été trahi, abandonné, j'ai fait confiance, on m'a trahi, je ne veux plus m'engager, ça ne sert à rien. Et puis de toute façon, si je m'engage, ça finira mal. Et puis je vais être encore abandonné si je fais confiance aux gens, etc. C'est la volonté là, qui est profondément blessée, vous voyez. Et donc Jésus vient visiter cette partie, ma personne, pour me donner de nouveau confiance, sachant que je suis enfant de Dieu, que Dieu ne me trahira jamais, hein, et d'arriver à mettre toute mon espérance en Dieu, et etc. Donc Jésus vient visiter ma volonté, il peut visiter mon intelligence, vous savez, toutes ces parties. L'intelligence, c'est la vérité, hein, si j'ai été trompé par toutes sortes d'erreurs, etc., je fais des bêtises, bref. Vous voyez, Jésus vient visiter. Hein. C'était saint Thomas d'Aquin, on a fêté il n'y a pas longtemps, souvent quand il avait des questions qu'il ne savait pas, il ne savait pas que penser sur des grandes... Il fallait écrire ces grandes... Voilà, tout ce qu'il écrivait en théologie. Il allait mettre sa tête contre le tabernacle, comme ça, tac, Seigneur, éclaire, vas-y, mets de la lumière dans la petite tête, hein, la plus grosse, je pense, de l'histoire de l'humanité, peut-être, mais... Voilà. Et Jésus, il éclairait son intelligence. Vous voyez, dans l'adoration, il y a vraiment, j'insiste sur cette dimension-là, de laisser Jésus... Et bien venir guérir ce qui doit être guéri dans ma personne. C'est ça, en fait, c'est m'évangéliser dans ce qui est blessé au fond de ma personne, et c'est différent pour chacun. Et lui, le Seigneur, il nous voit. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de temps, vous voyez. On ne peut pas passer 3 minutes et repartir. Jésus, il peut faire très vite, hein, mais il aime bien avoir un peu de temps, où souvent, c'est nous aussi, on a besoin voilà, de laisser Jésus tranquillement travailler en nous. Hein, et donc, c'est pour ça que vous avez cette invitation, hein, de donner une heure dans la semaine où vous pouvez laisser Jésus travailler dans votre personne pour ensuite donner ce que vous avez reçu. Alors ensuite, Jésus travaille en moi, mais ensuite Jésus va allumer ce feu de la charité. J'aime bien citer saint Damien de Molokai, vous savez, l'apôtre des lépreux. Hein, vous connaissez probablement, vous avez entendu parler. Il va évangéliser, c'était au 19e siècle, il était belge, flamand, et puis il va là-bas, l'archipel d'Hawaï, et il apprend, en tant que bon missionnaire, il faisait tout ce que les missionnaires de l'époque faisaient, bien que tous ceux qui sont atteints de la lèpre sont condamnés à partir sur une île, l'île du non-retour, Molokai, pour mourir dans une misère physique, il n'y avait rien, physique, aucun soin, misère morale, il n'y avait aucun ordre, aucune loi, aucune règle, enfin aucun, voilà. Et puis misère spirituelle, hein, parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Et donc lui, il sent vraiment le Seigneur qui l'appelle, voilà, à aller là-bas à Molokai. Donc ses supérieurs disent « Non, il ne faut pas y aller, si tu y vas, tu ne pourras pas revenir, tu vas mourir, etc. » de la lèpre avec tous les autres. Mais lui, vraiment, l'appelle. Et donc finalement, il va là-bas. Et donc il est dit qu'il a écrit, là, il a écrit pas mal de lettres. Une des premières choses qu'il a faites, c'est de reconstruire un autel, de célébrer la messe avec les quelques lépreux qu'il a trouvés, de célébrer la messe et d'exposer le Saint-Sacrement, reprenant ce passage de l'Évangile. Un lépreux vient voir Jésus, il tombe à ses pieds, Jésus dit « Que veux-tu ? Je veux être guéri. » Jésus le toucha, il repartit guéri. Et alors il témoigne dans certaines de ses lettres qu'ils n'ont peut-être pas été guéris physiquement, mais ils ont vraiment fait cette expérience, cette rencontre avec Jésus qui est venu leur donner la force, l'espérance à travers cette immense souffrance est cette maladie de la lèpre. Et alors il est dit qu'il organisait l'adoration perpétuelle, 7 jours, 7 nuits, avec les lépreux. Hein. Alors peut-être qu'ils étaient très... je ne sais pas comment ça se passait, mais il disait que c'était vraiment quelque chose qui marchait bien sur cette île de Molokai, et lépreux qui venaient prier sans cesse. Et il dit ceci: c'est au pied de l'autel que nous trouvons la force nécessaire dans notre isolement. Sans le Saint-Sacrement, une position telle que la mienne ne serait pas soutenable. Mais ayant notre Seigneur à mes côtés, eh bien je continue d'être toujours gai, content, avec cette gaieté de cœur, le rire sur les lèvres. Je travaille avec zèle au bien des pauvres malheureux lépreux, et petit à petit, sans trop d'éclat, le bien se fait. Jésus au Saint-Sacrement est le plus tendre des amis. Avec les âmes qui cherchent à lui plaire, sa bonté, c'est se proportionner à la plus petite de ses créatures comme à la plus grande. Ne craignez donc pas, dans des conversations solitaires, de l'entretenir de vos misères, de vos craintes, de vos ennuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, de vos espérances. Faites-le avec confiance et à cœur ouvert. Voilà, l'adoration, hein, c'est vraiment... répondre à cette invitation de Jésus qui dit « Venez à moi ». Quand j'étais séminariste, je m'amusais, j'avais un peu plus de temps pour travailler la Bible, et donc je m'amusais à voir combien il y a de « Venez à moi » dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Vous verrez que Jésus, il dit toujours « Venez », enfin toujours, très souvent, « Venez à moi ».« Venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le poids du fardeau, je vous soulagerai. Venez à moi, vous tous qui avez soif, que celui qui croit boive de mon cœur coulera un fleuve d'eau vive, par l'Esprit Saint que sauverait ceux qui aiment sans sa présence. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Reposez-vous dans un coin désert. » Vous voyez, le repos spirituel, repos de l'âme. Hein, on part en vacances, très bien, pour se reposer physiquement. Mais bon, on n'est pas qu'un corps, il y a aussi une âme. Est-ce qu'on sait reposer notre âme? Les deux vont ensemble, hein, c'est lié, on va dire. Mais on a besoin, l'adoration, c'est un repos. Un repos au pied du Seigneur. On fait cette expérience, hein, dans l'adoration. C'est pour ça qu'on aime, voilà, prendre un peu de temps. Hein, quand on peut, quand on n'a pas trop de choses à faire, si on a un peu plus de temps, c'est sûr, on peut faire un peu plus, mais après, il y a le devoir d'être, évidemment, hein, qui est là. Pauline Jaricot, cette Lyonnaise, alors j'aime beaucoup cette Lyonnaise, parce qu'elle a un petit testament spirituel qui montre bien ce que Jésus fait dans mon âme lorsque je viens adorer. Alors si, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une jeune fille qui avait 22 ans, enfin... qui, à 22 ans, va vivre une conversion terrible en venant prier la nuit devant le Saint-Sacrement. Alors surtout, n'allez jamais prier la nuit devant le Saint-Sacrement, parce qu'il peut se passer des choses très fortes. Hein, vraiment, c'est, je ne vous conseille pas de prier la nuit devant le Saint-Sacrement. Et alors, elle passe une nuit, alors elle fait une nuit entière. Et alors voilà que cette fille, qui, elle était fille d'un riche entrepreneur à Lyon, qui avait des usines, etc. Et elle reçoit une conversion radicale dans cette prière de nuit. Et elle reçoit dans son cœur, eh bien, elle qui était très coquette, hein, on la voit sur les photos et tout ça, 20, 21, 22 ans et tout ça, eh bien, de prendre les habits les plus pauvres, les habits que les filles les plus pauvres portaient, les filles qui étaient embauchées par son père. Et donc, elle se fait embaucher par son père en prenant les habits les plus pauvres qu'elle peut trouver à Lyon. Il faut le faire quand même. Hein. Le père, il a dû être un peu surpris. Alors, je ne connais pas tous les détails de sa vie, mais elle commence comme ça. Et puis ensuite, elle va complètement se consacrer à Dieu. Et alors, à travers cette prière intense et cette charité, elle va lancer toutes sortes de mouvements pour soutenir des causes, des grandes causes. Donc il y a le sou hebdomadaire, elle va lancer l'œuvre de la propagation de la foi, le rosaire vivant, l'œuvre des ouvriers. Elle a comme une immense fécondité, hein, qui découle de sa conversion, on va dire, mais comme elle dit, de cette prière qu'elle faisait autant que possible en venant adorer Jésus au Saint-Sacrement. Et puis à un moment, il y a une partie, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Certainement, elle a dû être abusée par des gens qui avaient de l'argent, qui elles avaient dû faire confiance pour soutenir ses œuvres. Enfin bref, un truc bizarroïde qui a fait qu'elle a perdu en fait la confiance de toutes les personnes qui la protégeaient dans l'église, de l'évêque, etc. Et elle a été mise de côté. Vous voyez, comme de temps en temps, il y a des bons paroissiens qui font quelque chose de très bien, alors pas ici bien sûr, et puis du jour au lendemain le curé il dit bah, ça sert à rien ton truc, va-t'en, alors qu'on a fait 10 ans, hein, en donnant toute son énergie, toute sa vie. Et elle, il s'est passé quelque chose comme ça, et elle va finir sa vie en faisant la manche devant une église, assez incroyable, elle qui avait trouvé des sommes absolument énormes, hein, pour soutenir toutes ces causes pour les plus pauvres. Elle finit dans la plus grande pauvreté, elle était même l'amie du curé d'Ars qui disait « Mais comment se fait-il, Seigneur, que tu permettes une telle croix, hein, à ta fille bien-aimée, qui t'a tellement servi et tellement aimée ?» Et alors, juste avant de mourir, elle écrit son testament spirituel qui nous montre ce que Jésus fait dans l'Eucharistie pour nous. Elle dit ceci « C'est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur desséché par les plus rudes épreuves a constamment trouvé les forces nécessaires pour en supporter la rigueur. » C'est là que mes combats se sont changés en victoire, ma faiblesse en courage, mes tiédeurs en ferveur, mes incertitudes en lumière, ma tristesse en joie, mes obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes antipathies, mes jalousies, mes ressentiments contre le prochain en ardente charité. Tout ce que je sais, je l'ai appris à vos pieds, Seigneur. Recevez donc l'hommage de tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je pourrais jamais penser, dire et faire de bien. » Elle écrit ça et hop, elle est morte. Voilà. Au moins, c'est bien, hein, droit au ciel, je pense, avec ça. Mais on voit la puissance de transformation de l'Eucharistie. Quand celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, quand il prend du pain et dit « Ceci est mon corps », eh bien, sachez que lorsque vous venez devant lui, hein, il fera le même miracle qu'il a fait avec saint Paul. Hein. Il a pris ce persécuteur des chrétiens, il a transformé l'apôtre des nations. Hein, Jésus vient nous prendre tel que nous sommes, et cet amour eucharistique, c'est un amour transformant. C'est un amour qui guérit, on a vu, c'est un amour qui transforme. Hein, et voilà, changer la tristesse en joie, les faiblesses en courage, les tiédeurs en ferveur, les incertitudes en lumière. Hein, voilà ce que Jésus fait lorsqu'on vient à ses pieds. J'ai vu qu'il y avait Mère Teresa, alors vous savez, elle disait souvent « L'heure sainte devant Jésus doit me conduire à l'heure sainte devant Jésus ». Alors elle disait « Jésus dans l'hostie, à Jésus dans le pauvre ». Hein, c'est beau, elle commençait, vous savez, toutes ses journées par une heure d'adoration, souvent deux ensuite, et elle disait « Sans mon heure d'adoration quotidienne le matin, je ne pourrais pas tenir une journée ». Elle avait besoin d'aller à la source de la charité, Christ dans l'Eucharistie, aussi la messe, hein, mais elle voulait cette adoration pour aller ensuite donner ce qu'elle avait reçu. Et elle témoigne qu'elle reçoit trois grâces devant le Saint-Sacrement. La première, c'est une grâce d'État pour aimer, supporter ses sœurs religieuses. Hein, notre devoir d'État, c'est le plus dur d'aimer ce qu'on connaît par cœur, hein, n'est-ce pas ? Et elle trouve voilà, dans l'Eucharistie cette force hein, de la, la patience, la persévérance. Deuxième grâce, elle dit en discernant sous les apparences du pain la présence de Jésus, elle reçoit la grâce de reconnaître Jésus sous le masque affligeant des plus pauvres. Conversion du regard. En reconnaissant Jésus sous les apparences du pain, elle reçoit la grâce de reconnaître Jésus sous le masque affligeant des plus pauvres. Et ensuite, elle dit, les pauvres n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus en nous. Hein, et c'est vrai que la sainteté, hein, c'est laisser Jésus voilà, prendre le dessus hein, sur nous. Hein, c'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Alors, voilà, Mère Teresa nous rappelle eh bien, que notre charité, hein, pour qu'elle soit efficace dans le plan de Dieu, il faut aller la puiser dans le sacrement de la charité. Mais si je veux faire du bien sans aller d'abord le chercher en Dieu, dans l'Eucharistie, eh bien je risque de faire ma volonté pour Dieu et non pas la volonté de Dieu. Hein, vous vous souvenez de Benoît XVI dans « Dieu est amour » « La prière comme moyen pour puiser toujours à nouveau la force du Christ devient une urgence tout à fait concrète. Celui qui prie ne perd pas son temps. » Même si la situation apparaît réellement urgente et semble pousser uniquement à l'action, la piété n'affaiblit pas la lutte contre la pauvreté ou même contre la misère du prochain. La bienheureuse Teresa de Calcutta est un exemple particulièrement manifeste que le temps consacré à Dieu dans la prière non seulement ne nuit pas à l'efficacité ni à l'activité de l'amour envers le prochain, mais on est en réalité la source inépuisable. Voilà, la source de la charité, c'est notre relation au Christ. C'est Jésus qui dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments, si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits ». Notre union à le Christ dans l'Eucharistie va faire qu'on va porter du fruit. Mais hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hein, hors de cette union avec le Christ, eh bien nos œuvres ne sont que du vent. Alors, encore deux points, hein, ça doit être l'heure, bon, je termine rapidement. Deux points, trois, on va dire. L'intercession, j'en parlerai un tout petit peu pendant les messes, mais j'aime bien rappeler, vous savez, la différence entre ce qu'on appelle la piété, la visite du Saint-Sacrement. La visite du Saint-Sacrement, je vais prendre un temps d'adoration, je passe devant la chapelle, là, le presbytère, je rentre, je fais une petite prière, merci Jésus, je te donne ma journée, aide-moi ceci, merci, au revoir, et je repars. Je vais 10, 15, 20 minutes, un peu, quand j'ai du temps. En fait, je n'ai pas besoin de Jésus exposé, je peux le faire dans n'importe quel tabernacle, dans n'importe quelle église, pour la visite du Saint-Sacrement. S'il faut qu'il y ait la présence réelle, je vais voir la présence réelle, mais je n'ai pas besoin de l'exposition. Vous voyez ? Alors, si c'est exposé, c'est mieux, mais pour ça, je n'ai pas besoin de l'exposition. Et après, on a ce qu'on appelle l'adoration solennelle, l'exposition solennelle, l'adoration eucharistique comme exposition solennelle, où là, il y a une présence d'église. Quand j'expose, l'église est là. Et si l'église est là, il faut qu'il y ait des gens qui soient là. Hein, j'aime bien dire souvent, il y a d'un côté la présence réelle de Jésus, et en face, il y a l'absence réelle de l'homme. Vous voyez ? C'est ça, t'entends. Hein ? Alors, je sais qu'ici, vous êtes très généreux dans votre temps et que vous venez prier régulièrement. Mais vous voyez, c'est pour ça que si on expose le Saint-Sacrement, eh bien, on fait ce qu'on peut après. Hein, on a aussi nos limites. Mais normalement, il y a toujours une présence d'église. Et donc, on a besoin de personnes qui donnent une heure chaque semaine. Vous voyez la différence entre la visite du Saint-Sacrement où j'y vais un peu pour moi, pour mes intentions. Par contre, quand je suis inscrit dans cette chaîne de prière, hein, il reste des invitations, vous avez la coordinatrice qui est là-bas, qui en a plein avec elle, hein, et bien à ce moment-là, je suis dans une autre démarche, parce que là, j'y vais pas pour moi. Je vais assurer le service de l'intercession. Et ça, c'était Jean-Paul II qui soulignait beaucoup ce service de la prière. Il disait, par l'adoration, le chrétien contribue à la transformation radicale du monde. Toute personne qui prie le Seigneur entraîne à sa suite le monde entier Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent un service éminent. Ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent pas ou sont loin de lui. Ils veillent devant lui en leur nom. Quand vous avez prié devant le Saint-Sacrement, vous êtes là au nom des personnes qui en ont le plus besoin. Et comme je disais dans l'homélie, je le redirai demain certainement, Moïse qui lève les bras vers Dieu, souvenez, quand il élève les bras, Dieu donne l'avantage à son peuple sur ses ennemis. Quand ses bras, il est dit, les bras de Moïse s'alourdissaient. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il constate que ce sont les ennemis d'Israël qui ont l'avantage sur le peuple de Dieu. C'est fou qu'on y pense. Quand il prie, le peuple a l'avantage. Quand il ne prie pas, le peuple a le désavantage. Et donc, il va demander de l'aide à Aaron, Hur, de maintenir ses bras. Et à ce moment-là, il est dit que le peuple d'Israël obtient la victoire. C'est Dieu qui donne les victoires. Les grandes victoires, elles viennent de Dieu. Elles passent par les intercesseurs. Vous voyez qu'ils ne doivent pas interrompre leur intercession. Après, elles se concrétisent sur le terrain. Après, il faut s'engager. Je veux dire, moi, je vous dis, 1 heure, 2 heures par semaine d'adoration. Après, tout le reste de la semaine, c'est dans le monde, pour vivre l'Évangile, etc. Mais, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a non pas une personne à droite, une personne à gauche, comme pour Moïse, mais il y a une personne avant moi, une personne après moi, dans une grande chaîne de prière et d'intercession. Et l'adorateur est comme Moïse, vous voyez, qui est sur la montagne sainte, au pied du Seigneur, et qui, alors, est-ce qu'il lève le bras? Il n'a pas besoin de lever les bras physiquement, mais son cœur est tendu vers Dieu, et il porte le monde. Il est là au nom de tous les autres. C'est celui qui est tendu entre le ciel et la terre, et en même temps, et qui obtient les grâces pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Et donc c'est pour ça qu'on peut dire d'un certain côté, l'adorateur qui est devant le Saint-Sacrement, il y en a toujours un. Eh bien c'est lui la personne la plus importante dans la ville. C'est ce qu'on voit avec Moïse. Parce que quand il arrête, eh bien ça va du mauvais côté. Quand il prie, ça va du bon côté. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de veilleurs, d'intercesseurs. Et on voit la différence entre la visite du Saint-Sacrement. J'y vais, j'ai 5 minutes, 10 minutes, c'est plus personnel, mais c'est bien, il faut le faire, je veux dire, autant qu'on peut. Et puis, cette adoration dans le sens de porter l'Église et le monde, où je donne 1 heure fixe chaque semaine. Alors, quelques petits conseils finaux, pour finir. Des petits conseils, j'en ai déjà dit plusieurs, donc j'en prends juste les quelques-uns. J'aime bien rappeler, ça c'était Benoît XVI qui rappelait le sens de l'agenouillement. Alors j'ai remarqué qu'ici dans votre paroisse, beaucoup de personnes s'agenouillent, plus que la moyenne en tout cas. Quand on se promène en France, ici vous avez une paroisse d'adorateurs, ça se voit quand même. Mais c'est intéressant, j'aime bien citer Benoît XVI qui regarde, parce que vous savez en France, nous on a un défaut, on dit toujours Jésus est ressuscité, le chrétien doit être debout parce que Jésus est ressuscité. Alors oui, il faut être debout, il faut s'engager parce que Jésus est ressuscité, mais Benoît XVI dit que d'abord, il faut se prosterner devant notre Seigneur dans l'adoration pour ensuite recevoir de Jésus, voyez, la vérité, la lumière, et ensuite pouvoir mener le bon combat et non pas des mauvais combats. Et il disait, le chrétien doit d'abord s'agenouiller devant son Dieu pour ensuite être debout et engagé dans le monde. Mais si on ne commence pas par s'agenouiller devant Dieu, on risque de s'agenouiller devant les erreurs et les bêtises du monde. Et alors, en même temps, il disait, alors quand je dis agenouillement, vous comprenez, c'est bon, physique si on peut, parce qu'on est des personnes, il y a corps et âme, ça va ensemble. Mais bon, c'est pas la finalité n'est pas le physique. Vous comprenez que c'est l'acte spirituel, mais qui normalement est accompagné, si on peut, par un agenouillement physique. Et il disait, le pape Benoît XVI, il comparait Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Il disait, ce qui est fou, c'est Dieu se met à genoux devant sa créature pour lui laver les pieds sales, mais la créature refuse de se mettre à genoux devant son Dieu. Quand même le mystère de l'iniquité, ça. Et alors il dit ceci, c'est Benoît XVI, l'adoration eucharistique est le remède le plus valable et le plus radical contre les idolâtries. S'agenouiller devant l'Eucharistie est une profession de liberté. Celui qui s'incline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous, les chrétiens, nous nous prosternons devant un Dieu qui s'est d'abord penchée vers l'homme pour le secourir et lui redonner vie. Il s'est agenouillé devant nous pour nous laver les pieds sales. Celui devant lequel nous nous prosternons ne nous juge pas, ne nous écrase pas, mais il nous libère, nous transforme. Et je pense que dans notre adoration, tantôt on a des distractions. C'est vrai que ça nous arrive tous et c'est normal. Si vous avez des distractions, vous êtes quelqu'un de normal, d'accord ? Voilà, il ne faut pas dire « je ne suis pas normal ». On a tous des distractions. Mais c'est vrai que le fait de tentant de pouvoir se remettre, au moins en entrant ou en sortant, s'agenouiller quelques instants, quelques minutes, ça nous replonge dans l'adoration. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger voilà, la position du corps, c'est ce que je veux dire. Parce qu'il faut adorer avec toute sa personne et le corps fait aussi partie de notre personne. Voilà. Alors, quelques conseils. Je finis juste des petites citations de Saint-Pierre Julien Aymard. Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme une heure du paradis. Allez-y comme on va au ciel, au banquet divin. Cette heure sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement le désir dans votre cœur. Dites-vous, dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. Savoir préparer son cœur. Il y a quelque temps, j'ai un neveu et une nièce qui sont lycéens. Et alors, c'était bien, j'étais avec eux juste avant le réveillon. Et alors, je vous dis que eux, le réveillon, ils l'ont préparé. C'est-à-dire que pour eux, pour les jeunes, quand on les voit préparer une fête, c'est beau. Mais ils le font à fond. Ils se préparent, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais dire, où est-ce que je vais aller, comment ceci, qu'est-ce que je vais apporter. Et c'est beau, d'un certain côté, de se dire, mais comment ils préparent cette fête. Alors après, bon, ça se passe comme ça se passe, mais ils savent la préparer. Et nous, est-ce que nous savons préparer cette fête, une heure avec Jésus, une heure au paradis? Nous sommes invités par le roi des rois, Dieu qui, pour nous, y descend sur terre. Ça fait 2000 ans qu'il nous attend au tabernacle pour nous. Est-ce que je sais préparer cette heure d'adoration? Dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience. C'est bon, vous avez une audience privée, non pas avec le pape François, encore mieux que le pape François, Jésus ressuscité. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour et vous ouvrirez délicieusement votre âme pour son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Ou bien si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. C'est vrai que souvent on commence, Seigneur, ça ne va pas du tout. Seigneur, j'ai un problème. Seigneur, c'est la catastrophe. À peine arrivé, c'est la catastrophe. Vous êtes devant Jésus ressuscité, c'est la catastrophe. Dis donc. Et alors après, on reste sur notre catastrophe pendant toute l'heure et on repart avec notre catastrophe. Vous voyez, c'est comme ça. Donc c'est vrai que la catastrophe, on la laisse à la porte et on essaie d'aller rencontrer l'amour incarné. Dieu fait homme. Alors après, c'est vrai que dans notre adoration, il y a un moment, on va prier pour nos intentions, pour nos catastrophes, pour nos problèmes, nos soucis. Mais commençons par Jésus, commençons par son amour. C'est lui qui est important, c'est le ciel Jésus, c'est le ciel sur terre, c'est l'amour vainqueur, c'est ça qui a tous les problèmes, tous les trucs, ça c'est secondaire, mais l'amour de Jésus dans l'Eucharistie, ça c'est important. Donc commençons par cet amour, allons adorer, rencontrer cet amour. Donc commençons par cette adoration, Saint Emma dit, on commence par l'adoration, après l'action de grâce, après on peut, voilà, la réparation, pardon Seigneur. Pardon, tu as oublié, tant de tabernacles, tu es tout seul, personne pour répondre à toi, tant de personnes qui communient peut-être, qui ne sont pas en état de grâce, etc. Pardon pour mes péchés, voilà. Et puis s'il te plaît, les fameuses prières, voilà, habituelles. Comment adorer, vous voyez, regardons les amis de Jésus, regardez les mages, comment ils vont se prosterner, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont donner. Regardez Marie-Madeleine, regardez Saint-Jean, regardez Saint-Pierre. Comment ils ont approché Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, faites comme eux. Prenez les amis, pas les ennemis de Jésus. Vous imitez les amis, pas les ennemis. D'accord? Et puis, vous faites comme eux. Voilà. Et puis, chacun, il y en a qui seront plus comme Marie-Madeleine, plus comme les mages, plus comme Saint-Jean, plus comme la Vierge Marie, je ne sais pas. Mais voilà, regardez comment les amis ont fait. et dites-vous que ce que Jésus a fait pour eux, il le fera pour vous, parce que c'est le même Jésus qui est présent dans l'Eucharistie, qui prolonge son incarnation. Voilà, j'ai fini. Alors, l'aridité, bon, vous êtes dans l'aridité, glorifiez la grâce de Dieu sans laquelle vous ne pouvez rien. Ouvrez alors votre âme vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever du soleil, pour recevoir la rosée bienfaisante. Mais vous êtes dans l'état de tentation, de tristesse, tout se révolte en vous, tout vous tente à quitter l'adoration sous prétexte que vous offensez Dieu, que vous le déshonorez plus que vous ne le servez. N'écoutez pas cette tentation, c'est l'adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, non, vous ne lui déplaisez pas, vous réjouissez votre maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute du temps que nous devions lui consacrer. Hein ? Voilà, dans le combat, on ne vient pas chercher les consolations. Hein ? Quand j'entends des gens qui disent « j'arrête l'adoration, je ne ressens plus rien ». Mais on ne va pas adorer pour ressentir. On va adorer Dieu pour lui, pas pour nous. Alors, Dieu est bon, il nous donne des consolations. Pas toujours, tantôt il n'en donne pas. Ça arrive, hein ? Il y avait un adorateur qui disait, il commençait l'adoration, puis au bout de quelques temps, il ne ressent plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Il va voir le curé, il dit « Mais mon père, vous avez mis une hostie non consacrée. Ça ne marche pas. Il n'y a rien. Cette hostie, elle ne marche pas. Hein » Non, hein, voilà. Jésus nous invite à nous attacher au Dieu des consolations, et non pas aux consolations. Mais le Seigneur, il est bon. Il nous les donne, ces consolations. Et s'il ne veut pas nous les donner, c'est qu'il les donne à quelqu'un d'autre, ou c'est qu'il fait quelque chose de plus profond en nous. Voilà. Alors, on va peut-être prendre quelques temps de questions-réponses. Juste avant question-réponse, pour ceux qui veulent, ça, très important, une heure. Hein, voilà, ceux qui sont pas, qui n'ont pas déjà une heure par semaine, essayez, vous verrez, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Hein, vous pouvez, si vous n'êtes pas prêt à faire une heure par semaine parce que vous dites c'est quoi ce truc-là, qu'est-ce que voilà, c'est m'embêter, tout ça, voilà, faites une période d'essai. Vous faites ça maintenant, une période d'essai. Pendant un mois, vous faites une heure par semaine, en fait, quatre fois une heure, et après un mois, vous allez dire à la cour d'exercice, je veux garder mon heure. Hein, voilà, peut-être pas, je sais pas, mais voilà. Donc c'est bien, voilà, l'adoration, hein, de donner une heure par semaine. Et j'ai apporté, alors pour ceux qui iront là-bas, là pour le petit pot de partage, on a un petit journal qui s'appelle le Brasier Eucharistique. Hein, c'est la revue des missionnaires de la Sainte Eucharistie. Voilà, on essaie de mettre des paroisses adoratrices. Je sais qu'on a fait un numéro sur la paroisse de la Roche-sur-Yon. Voilà, et puis il y a aussi deux livres voilà, sur l'adoration, hein, s'il y en a qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant qu'on passe là-bas? Comment on fait, c'est ça? Alors, tout simplement, hein, si vous avez des questions, il faut dire bien fort pour que tout le monde entende. Sinon, je répondrai à la question qu'on pose toujours. Donc, si vous ne la posez pas, c'est que vous n'osez pas, mais je répondrai à la question qu'on pose toujours si vous ne la posez pas. À moins que vous avez une autre question. Pas de question. La question qu'on pose toujours, normalement, on dit, mais pourquoi prier devant le Saint-Sacrement quand on a Jésus dans son cœur, hein? Pourquoi j'ai besoin d'aller là-bas quand j'ai Jésus là? Alors, c'est une question qui est généralement une question, une bonne question. Hein, on pourrait dire, c'est un petit peu, quelle est la distinction entre l'oraison, c'est le cœur à cœur avec Dieu qui est là en moi, et l'adoration, où il y a un face-à-face avec la présence du Christ ressuscité, et qui demande que je me déplace physiquement dans la chapelle d'adoration. Alors, juste pour répondre, hein, il y a plein de réponses possibles, moi j'en donnerai juste une. C'est sûr, ce qui est important, c'est l'oraison. Ce qui compte, c'est qu'on soit en état d'oraison avec Dieu toute la journée, hein, qu'on fasse cette oraison constamment. Maintenant, quand on regarde nos chers maîtres spirituels, Sainte Thérèse de Lisieux, là, hein, ou Sainte Thérèse d'Avila, quand on voit voilà, on voit que l'oraison, bah, c'est pas facile, hein. Alors si pour elle et pour Sainte Thérèse de Lisieux c'était pas facile alors qu'elles avaient la vie religieuse, le Carmel, la formation intellectuelle, la formation spirituelle, la règle de vie, l'ascèse, le truc. Et il disait que c'était dur. Comprenez que c'est normal que l'oraison, ça soit très dur. Hein, nous qui n'avons pas le même rite. Et c'est vrai que souvent ce qui se passe dans notre société très blessée, on veut rencontrer Dieu en soi, mais souvent à cause de nos blessures, on retombe sur nous. Vous voyez, on essaie de descendre, mais on a du mal à rencontrer Dieu dans cet état de paix. Hein. Et donc, souvent, on veut, vous savez, c'était les franciscains du Bronx, qui aimaient beaucoup ça, ils disaient une fois à un groupe de jeunes pour Jeunesse 2000, ils disaient, vous savez, il y a deux trinités dans l'homme. Alors tout le monde, ah bon, deux. Alors ils disaient, la première, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit reçu le jour du baptême, ok, très bien. Et la deuxième, me, myself and I. Moi, moi, moi. Et c'est vrai que souvent, quand on veut passer de moi à toi, on passe de moi à moi-même, ou à je, ou à personnellement, moi, je, vous voyez. Et donc, l'adoration, c'est un vrai... Vous voyez, on a du mal à se décentrer. Souvent, on n'y arrive pas. C'est dur. Et quand on voit comme c'était dur pour Thérèse de Lisieux et les autres, c'est normal de se dire. Et c'est pour ça que l'Église nous invite au face-à-face de l'adoration, qui est un moyen... mais qui est lié à l'incarnation, hein, je veux dire, pour vivre le cœur à cœur. Parce que c'est vrai que dans le dialogue, normalement quand je dialogue, je suis face à quelqu'un. Hein, on peut dialoguer, on parle, on écoute, on parle, face à quelqu'un qui est face à moi. Donc le face-à-face, ça correspond à notre psychologie naturelle. Maintenant, avec Dieu qui est dans mon cœur, c'est plus difficile. Donc l'Église m'invite, en fait, eh bien, à prolonger ce que j'ai vécu à la messe dans ce face-à-face de l'adoration. Quand je parle à l'hostie, là je parle à Jésus. Vous voyez, et je suis dans ce dialogue avec le Seigneur qui est là, même si je ne ressens pas grand-chose, mais en fait c'est dans mon cœur que je vis cette oraison quand je suis face à l'Eucharistie. Donc c'est vrai que le face-à-face est un levier spirituel que Jésus me donne pour m'aider à faire que ma vie soit une oraison, un vrai cœur à cœur, et qu'ensuite de cette adoration que j'ai eue, la communion aussi, hein, eh bien je puisse vivre cette oraison tout le reste de ma journée. Voilà. Une question ? Pas de question. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, une petite prière ou Bah, je te laisse.
Voilà, pour conclure, je vous remercie aussi de vous accompagner, de donner son fils. Je vous salue, Marie.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.
Feuillet pour les inscriptions, si vous voulez, pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, qui auraient oublié de s'inscrire.